Chapitre 7. Monsieur Casaubon, comme on le pense bien, passa une grande partie de son temps à la grange durant les semaines suivantes. Interrompu dans son grand travail, la clé de toutes les mythologies, par la cour assidue qu'il faisait à sa fiancée, il aspirait d'autant plus à l'heureux événement qui y mettrait fin. Mais il s'était soumis de propos délibérés à cette interruption dans son œuvre, ayant décidé que le temps était venu d'embellir sa vie des grâces d'une société féminine, d'éclairer les brouillards que la fatigue répandait jusque sur ses heures de loisir par les caprices de la fantaisie d'une femme, et enfin d'assurer à sa vieillesse la consolation de doux soins féminins. Aussi résolut-il de s'abandonner au courant du sentiment, et il fut peut-être étonné de voir quel ruisseau peu profond c'était que ce courant. Ainsi que dans des régions arides le baptême par immersion ne peut être accompli que symboliquement, de même M. Casaubon éprouva qu'une légère aspersion était tout ce que son courant lui permettait, et il en conclut que les poètes avaient beaucoup exagéré la force de la passion chez les hommes. Il remarqua cependant avec plaisir que Miss Brooke témoignait dans son affection une ardeur et une soumission qui promettaient de remplir ses plus agréables prévisions du mariage. Parfois, cherchant à s'expliquer la modération de son attachement pour elle, il lui venait à l'esprit qu'il pouvait bien y avoir quelque imperfection dans le caractère de Dorothée. Mais il lui était impossible de discerner cette imperfection et même de se figurer une femme qui lui eût plu davantage. « Ne pourrais-je pas me préparer dès à présent à vous être utile ?» lui dit Dorothée un matin dans les premiers jours de leur fiançailles. « Ne pourrais-je pas apprendre à vous lire du latin et du grec ?» Les filles de Milton lisaient à leur père, sans savoir le grec plus que moi. « Je crains que cela ne vous paraisse fatigant, » répondit en souriant M. Casaubon. « Et, si je m'en souviens bien, cet exercice dans une langue étrangère était un sujet de rébellion contre le poète de la part des jeunes personnes que vous venez de citer. Oui, mais d'abord c'était de méchantes filles, sans quoi elles eussent été fières de venir en aide à un tel père. » Et puis, si elles avaient pris la peine d'étudier pour arriver à comprendre ce qu'elles lisaient, c'eût été un travail intéressant. J'espère que vous ne me croyez ni méchante ni stupide. Je crois que vous êtes tout ce que peut être une jeune fille accomplie dans toutes les circonstances de la vie. Certes, il me serait d'un grand avantage que vous puissiez copier les caractères grecs, et dans ce but, il serait bon de commencer par le lire un peu. Dorothée saisit cette phrase comme une précieuse autorisation. Elle n'eut pas demandé à M. Casaubon de lui enseigner dès à présent les langues mortes, craignant avant tout d'être importune au lieu d'être utile. Mais ce n'était pas uniquement par dévouement à son futur époux qu'elle désirait apprendre le grec et le latin. Ces domaines de la science masculine lui semblaient un point d'appui d'où l'on pouvait mieux embrasser la vérité de toute chose. Sentant son ignorance, elle était portée à douter constamment de la justesse de ses conclusions, comme elle en était venue maintenant à douter que les pauvres petites chaumières de ses rêves fussent pour la gloire de Dieu, puisque des hommes instruits dans les classiques semblaient concilier l'indifférence pour les chaumières du pauvre avec le zèle pour la gloire de Dieu. L'hébreu même pourrait lui être nécessaire, ou tout au moins l'alphabet et quelques racines, pour arriver à connaître le fond des choses et à juger sainement des devoirs sociaux du chrétien. Elle n'avait pas encore atteint ce degré de renoncement où elle se fût tenue pour satisfaite d'avoir un mari sage et éclairé. Elle prétendait devenir sage et éclairée elle-même. Miss Brooke était bien naïve, la pauvre enfant, avec toute son apparence de sagesse. Célia, dont l'esprit n'avait jamais été considéré comme très puissant, voyait beaucoup plus vite le vide que cachaient souvent les prétentions des autres. Cependant, M. Casaubon consentait à écouter et à enseigner une heure de suite comme un véritable maître d'école, ou plutôt comme un amoureux auquel l'ignorance élémentaire et les difficultés de sa maîtresse semblent un touchant à propos. Peu de savants eussent se trouvé déplaisant d'enseigner l'alphabet dans de telles conditions, mais Dorothée était un peu froissée et découragée de sa stupidité. Et les réponses qu'elle recevait à de timides questions sur la valeur des accents en grec lui donnaient le soupçon attristant qu'il pouvait bien y avoir là des secrets trop au-dessus de la raison féminine. Quant à M. Brooke, il n'avait aucun doute à cet égard, et il exprima son opinion avec sa vigueur ordinaire un jour qu'il entra dans la bibliothèque pendant la leçon de lecture. « Eh bien, Casaubon, de si profondes études me semblent bien ardues pour une femme. Trop ardues, vous savez. » « Dorothée apprend simplement à lire les caractères, » dit M. Casaubon, élu dans la question. « Elle a eu la pensée très charitable de vouloir ménager mes yeux. » « Ah, fort bien, sans comprendre, oui, ce n'est pas mal. Mais il y a une certaine légèreté dans l'esprit féminin. La musique, les beaux-arts, voilà ce qui lui convient. Les femmes devraient toujours étudier les beaux-arts, mais superficiellement, vous savez. Une femme doit pouvoir toujours se mettre au piano et vous jouer ou vous chanter n'importe quelle vieille chanson anglaise. Voilà ce que j'aime, moi. Bien qu'à l'opéra de Vienne, j'ai entendu tout ce qu'on peut entendre. Gluck, Mozart et d'autres. Mais je suis conservateur en musique. Ce n'est pas comme en matière d'idées, vous savez. Je reste fidèle aux bonnes vieilles harmonies. Monsieur Casaubon n'aime pas le piano, et j'en suis bien aise, dit Dorothée. Dorothée était excusable de ne pas aimer la musique de famille, ni les beaux-arts à l'usage des femmes. Elle sourit et leva vers son fiancé des yeux reconnaissants. Quel bonheur de n'avoir pas à lui jouer sans cesse la dernière rose d'été. Il n'y a, paraît-il, à Loïc qu'un vieux clavecin tout couvert de livres, reprit-elle. Oh, en ceci, ma chère, Célia vous est très supérieure. Célia joue fort joliment, et elle est toujours prête à le faire. Mais puisque Casaubon ne l'aime pas, je vous approuve. Quoique je regrette ces petites récréations-là pour vous, Casaubon. L'arc toujours tendu, etc., etc., vous savez bien. Je n'ai jamais pu considérer comme un délassement d'avoir les oreilles agacées par des bruits rythmés et cadencés. Une chanson trop connue me fait l'effet d'une musique de danse, laquelle n'a rien d'agréable pour qui a passé l'adolescence. Quant au genre plus noble de la musique, digne d'accompagner des cérémonies solennelles, ou même d'agir sur l'âme et de l'élever, comme dans l'ancienne conception de cet art, je n'ai rien à en dire, car il ne nous concerne pas immédiatement. Non, mais j'aimerais cette musique-là, dit Dorothée. En revenant de Lausanne, mon oncle nous a menés entendre les grandes orgues de Fribourg, et j'y ai sangloté. Cela n'est pas sain, ma chère, dit M. Brook. À présent qu'elle va être entre vos mains, Casaubon, il faudra lui enseigner à prendre les choses plus tranquillement. Et Dorothée ? Et il acheva sa phrase par un sourire, ne voulant pas froisser sa nièce. Après tout, ne valait-il pas mieux pour elle qu'elle fût mariée de bonne heure à un personnage aussi rassis que Casaubon, puisqu'elle ne voulait pas entendre parler de Chatham. C'est étrange pourtant, se disait-il en s'esquivant de la chambre. C'est étrange qu'elle l'ait aimé. Mais c'est un bon mariage, et quoi qu'en dise Mrs. Cadwallader, c'eût été agir contre mes propres intérêts que de m'y opposer. Il est presque certain qu'il deviendra évêque, ce Casaubon. Sa brochure sur la question catholique est venue fort à propos. Tout au moins il sera nommé doyen. On le lui doit. Chapitre 8. Après avoir surmonté la peine et le dépit de voir Dorothée engagée à un autre, Sir James Chatham s'étonna du plaisir qu'il trouvait encore à ses visites à la grange. Sans doute la première fois qu'il en approcha, il lui sembla qu'un éclair fourchu le traversait de part en part, et durant toute son entrevue avec elle, il éprouva comme un sourd malaise. Mais, en dépit de son bon naturel, avouons que ce malaise était quelque peu diminué par le fait qu'il ne se trouvait pas en présence d'un rival brillant et désirable. Il ne se sentait pas éclipsé par M. Casaubon, mais il était choqué de voir Dorothée sous l'empire d'une aussi triste illusion, et sa mortification perdait un peu de son amertume en s'associant à de la pitié. Tout en comprenant que sa rupture avec Dorothée était sans retour, Sir James ne pouvait encore envisager avec calme la pensée de son mariage avec M. Casaubon. La première fois qu'il les vit ensemble, sous cet aspect nouveau de fiancé, il lui sembla qu'il n'avait pas pris l'affaire assez au sérieux. Brooke était réellement coupable. Il devait s'opposer. Qui pourrait lui parler? N'y avait-il pas quelque tentative à faire encore, au moins pour retarder le mariage? En revenant de Freshitt, il entra au rectorat de M. Cadwallader et fut introduit dans un cabinet d'études où étaient suspendues toutes sortes d'attirails de pêche, et de là dans une petite pièce contiguë où le recteur était occupé à confectionner un dévidoir. Monsieur Cadwallader était un homme de haute taille, aux lèvres un peu épaisses et au sourire affable, très simple et rude dans son extérieur, mais possédant cette aisance, cette bonne humeur solide et imperturbable qui vous pénètre comme l'aspect ensoleillé de vastes collines herbeuses et qui agit par contagion sur l'égoïsme irrité en le forçant à rougir de lui-même. « Eh bien, comment vous portez-vous » dit-il, tendant au baronnet une main assez peu présentable. « Je suis fâché de vous avoir manqué l'autre jour. S'est-il passé quelque chose de particulier ? Vous avez l'air ennuyé. » Le baronnet parut exagérer à dessein le léger pli et le froncement de sourcils habituels à son visage, tandis qu'il répondait « C'est cette conduite de Brooke. Il faudrait lui parler sérieusement. »« Quelle conduite ?»« Parce qu'il veut se présenter à la députation, » dit M. Cadwallader, continuant à arranger ses bobines. « Je ne puis croire qu'il s'y décide. » Mais où serait le mal, si cela lui plaît? Tous les adversaires des libéraux devraient se féliciter qu'ils ne mettent pas en avant leurs hommes les plus forts. Ce n'est pas avec la tête de notre ami Brooke, comme batterie de campagne, qu'ils démoliront la Constitution. Ce n'est pas de cela que je veux parler, dit Sir James, qui s'était jeté dans un fauteuil, et examinait avec une profonde amertume la semelle de sa bottine. C'est du mariage que je parle, et de la faiblesse avec laquelle il laisse cette belle jeune fille épouser Casaubon. Casaubon, mais quoi? Je ne vois rien à reprendre en lui, si cette jeune fille l'aime. Elle est trop jeune pour bien savoir ce qu'elle aime. Son tuteur devrait intervenir, et ne pas laisser la chose se conclure aussi précipitamment. Je m'étonne qu'un homme comme vous, Cadwallader, un homme qui a des filles, et un cœur comme le vôtre surtout, puisse considérer cette affaire avec indifférence. Songez-y sérieusement. Je ne plaisante pas. Je suis aussi sérieux que possible, répondit le recteur, avec un petit rire intérieur tout à fait provoquant. Vous ne valez pas mieux qu'Éléonore. Elle voulait m'envoyer faire la leçon à Brooke. Mais je lui ai rappelé que ses amis avaient eu aussi une triste opinion de son mariage lorsqu'elle m'épousa. Mais voyez ce Casaubon, il a au moins 50 ans, et je ne crois pas qu'il ait jamais pu être autre chose que l'ombre d'un homme. Voyez un peu ses jambes. Allez au diable, vous tous beaux jeunes gens, qui croyez toujours pouvoir en faire à votre guise en ce monde. Vous ne comprenez pas les femmes. Elles ne vous admirent pas la moitié autant que vous vous admirez vous-même. Éléonore disait autrefois à ses sœurs qu'elle m'avait épousée pour ma laideur, si amusante et si étrange, disait-elle, qu'elle avait absolument triomphé de sa prudence. Vous, il était bien facile de vous aimer. Mais ici, ce n'est pas de beauté ou de laideur qu'il est question. Je n'aime pas Casaubon. » C'était la façon la plus énergique de Sir James de faire entendre qu'il avait mauvaise opinion du caractère d'un homme. « Pourquoi? Que savez-vous contre lui ?» demanda le recteur, déposant ses bobines et enfonçant ses pouces dans les entournures de son gilet d'un air attentif. C'était toujours une difficulté pour Sir James d'expliquer ses motifs. « Voyons, Cadwallader, a-t-il seulement un peu de cœur ?»« Eh bien, oui. Je ne dis pas un cœur tendre, mais un bon noyau solide, soyez-en sûr. Il est très secourable pour sa famille, qui est peu fortunée. Il pensionne plusieurs de ses parentes, et il fait élever un jeune homme à grands frais. Casaubon agit d'après son sens de la justice. La sœur de sa mère a fait, je crois, un mauvais mariage avec un Polonais. Elle s'est perdue, sa famille l'a reniée et abandonnée. Sans cet événement, Casaubon n'aurait eu que la moitié de la fortune qu'il possède aujourd'hui. Je crois qu'il a tâché de retrouver ses cousins et de voir ce qu'il pourrait faire pour eux. Tous les hommes ne rendraient pas un aussi beau son que celui-là si vous essayiez leur métal. Vous, Chatham, c'est différent, mais pas tous les hommes. Je ne sais pas, dit Sir James, rougissant fortement, je ne suis pas si sûr de moi. Il s'arrêta un instant, puis reprit « Casaubon a bien agi, mais un homme peut se bien conduire et n'en être pas moins une sorte de code en parchemin. Est-il certain qu'une femme soit heureuse avec lui ? Et je trouve que lorsqu'il s'agit d'une personne aussi jeune que Miss Brooke, ses amis devraient intervenir, ou au moins essayer, pour l'empêcher de commettre une folie. Vous riez, vous pensez que si j'exprime ces sentiments, c'est aussi un peu pour mon compte et par dépit. Mais, sur mon honneur, ce n'est pas cela. Je sentirais absolument de même si j'étais le frère ou l'oncle de Miss Brooke. Très bien. Mais que feriez-vous? Je dirais qu'il ne faut pas fixer le mariage avant sa majorité. Et, soyez-en sûr, dans ce cas-là, il n'aurait jamais lieu. Je voudrais que mon opinion fût la vôtre. Je voudrais vous voir parler à Brooke. Sir James se leva alors pour saluer Mrs. Cadwallader, qui entrait tenant à la main sa plus jeune fille, âgée de 5 ans. L'enfant courut tout droit se blottir sur les genoux de son père. « Je sais de quoi il s'agit, » dit Mrs. Cadwallader, « mais vous ne ferez pas d'impression sur Humphrey. Aussi longtemps que le poisson se prendra à l'amorce, chacun de nous restera exactement ce qu'il est. Dieu vous bénisse. Casaubon possède un ruisseau à truites et ne se soucie pas d'y pêcher lui-même. Croyez-vous qu'il existe un meilleur garçon ?»« Eh bien, il y a du vrai là-dedans, » dit le recteur avec son rire calme et silencieux. « C'est une précieuse qualité pour un homme que d'avoir un ruisseau à truites. » »« Mais sérieusement, » dit Sir James, dont l'irritation ne s'était pas encore entièrement dissipée, « ne croyez-vous pas que le recteur pourrait quelque chose, s'il voulait parler ?»« Oh, je vous ai prévenu d'avance de ce qu'il dirait, » répondit Mrs. Cadwallader en levant les sourcils. « J'ai fait ce que j'ai pu. Je m'en lave les mains de ce mariage. » « Premièrement, » répliqua le recteur d'un air grave, il serait déraisonnable de s'attendre à ce que je puisse convaincre Brooke, et ensuite le faire agir en conséquence. Brooke est un excellent homme, mais il est mou. Il entrera dans n'importe quel moule, mais sans jamais en garder l'empreinte. Et puis, mon cher Chatham, pourquoi, je vous prie, userais-je de mon influence au préjudice de Casaubon, à moins d'être beaucoup plus sûr que je ne le suis d'agir dans l'intérêt de Miss Brooke? Je ne sais rien de défavorable à Casaubon. Je ne m'inquiète pas de ses xisoutrous, fifofum, etc. Et il ne s'occupe pas davantage de mes engins de pêche. Il a toujours été poli avec moi, et je ne vois pas pourquoi j'irais gâter son jeu. Et pour revenir à Miss Brooke, elle pourra être aussi heureuse avec lui qu'avec tout autre homme. Humphrey, vous me faites perdre patience. Vous savez bien que vous aimeriez mieux dîner sous la haie qu'en tête à tête avec Casaubon. Vous n'avez jamais rien à vous dire. Cela n'a rien à faire avec le mariage de Miss Brooke. Ce n'est pas pour mon plaisir qu'elle l'épouse. Il n'a pas une goutte de sang dans tout le corps, dit Sir James. Certainement pas. On en a mis une goutte sous un verre grossissant, et on n'y a trouvé que des virgules et des parenthèses, ajouta Mrs. Cadwallader. Que ne fait-il paraître son livre au lieu de se marier, dit Sir James, rempli de dégoût. Il ne rêve que d'annotations, et sa cervelle se brouille dans tout cela. On dit que tout petit garçon, il fit une analyse de « saute sur mon pouce ». Et depuis, il a toujours fait des analyses à propos de tout. Fi donc. Et tel est l'homme avec lequel Humphrey s'obstine à dire qu'une femme peut être heureuse. Eh bien, si, tel qu'il est, il plaît à Miss Brooke. Je ne fais pas profession de comprendre les goûts de toutes les jeunes personnes. Mais si elle était votre fille, dit Sir James. Ce serait différent. Elle n'est pas ma fille, et je ne me sens pas appelé à intervenir dans cette affaire. Casaubon n'est pas pire que la plupart d'entre nous. C'est un clergéman savant, et il fait honneur à l'habit. Certain radical faisant un discours à Middlemarch a dit que Casaubon était le titulaire coupeur de paille instruit. Frick, le titulaire brique et mortier, et moi le titulaire pêcheur. Et sur ma parole, je ne vois pas qu'il y en ait un meilleur ou pire que l'autre. Le recteur voyait toujours le côté plaisant dans toute satire dirigée contre lui. Il avait la conscience large et facile, comme tout le reste de son individu, et détestait le tracas. Sir James comprit avec tristesse que Miss Brooke aurait pleine liberté de commettre sa folie. Un signe de l'heureux naturel du baronnet, c'est que son zèle à réaliser les projets de chaumière de Dorothée ne se ralentit pas pour cela. Et Dorothée put apprécier sa loyale persévérance dans l'accomplissement de ce devoir de propriétaire que la complaisance seule de l'amoureux lui avait d'abord fait entreprendre. Le plaisir qu'elle en ressentit fut assez grand même pour compter pour quelque chose dans son bonheur présent, au milieu des doux rêves de confiante admiration et de dévouement passionné que le savant gentleman avait éveillé dans son âme. Aussi le bon baronnet, alors qu'il commençait, dans les visites suivantes, à rendre certaines petites attentions à Célia, retrouva-t-il de plus en plus de plaisir à la société de Dorothée. Elle était avec lui parfaitement naturelle, sans plus témoigner d'agacement. Peu à peu, il découvrit tout le charme qu'il peut y avoir dans une franche affection et dans une amicale intimité, d'homme à femme entre lesquelles il n'y a pas d'amour à cacher ni à déclarer.